Classique 21. You rock.
Classique 21, soundtrack avec Laurent Deboeuf.
C'est la deuxième heure de Soundtrack. Merci d'avoir choisi Classic 21 pour votre matinée. Et donc, les Talking Heads à l'instant avec Once in a Lifetime. Ça, c'est en 1980. Et j'en profite aussi pour rappeler parallèlement que David Byrne vient justement de sortir un album. C'était le 5 septembre dernier. Un tout nouvel album qui s'appelle Who is the Sky. Mais nous, on va se concentrer ici sur la période 1980 et notamment l'album Remain in Light pour les Talking Heads. Et c'est c'est une séquence pour laquelle je suis ravi d'accueillir Dominique Raguet. Bonjour Dominique.
Bonjour Laurent, bonjour tout le monde. Alors, on vient d'entendre ici, ça c'est un des morceaux les plus connus de cet album qui fête son 45e anniversaire. Le morceau Once in a Lifetime qui commence avec cette phrase « And you may hide yourself living in a shotgun shack ». Ça c'est l'ouverture qui se traduit en français. Et dire que vous pourriez habiter ou vous retrouver dans une cabane, ces cabanes, ces shotgun shack, ces fameuses cabanes du sud des États-Unis. Il paraît qu'on dit ça comme ça parce qu'une balle peut les traverser de part en part lorsqu'on tire, pour dire à quel point ce sont des cabanes pour les pauvres. Et c'est vrai qu'à travers cette chanson, eh bien David Byrne et son groupe Talking Heads a pris pour cible la middle class, la société de consommation ou l'accumulation de richesses est la seule source, ou à peu près, pour trouver de la joie et du bonheur. Le morceau ici se décline avec comme une transe moderne, un voyage entre la foi et la folie de notre monde occidental. Byrne qui incarne là véritablement un prédicateur perdu dans la surconsommation. En fait, ces phrases qu'il scande sont tout à fait authentiques. Ce sont des extraits de discours prononcés par des prédicateurs américains. Alors comment on en est arrivé là ?
En vérité, vous allez nous le dire.
Oui, alors comment on en est arrivé là ? Eh bien, pour comprendre, il faut remonter quelques mois avant la sortie de ce quatrième album des Talking Heads, qui sort donc en octobre 1980. Alors on remonte un petit peu le temps et on est durant l'hiver 79-80 et à ce moment-là, David Byrne bosse sur un projet solo avec le producteur Brian Eno qui a déjà réalisé deux albums pour le groupe new-yorkais. Alors petite parenthèse, les trois autres membres des Talking Heads apprennent que David Byrne se lance dans un projet solo sans eux par voie de presse alors qu'ils sont en pleine campagne de promotion pour leur album Fair Music. Alors imaginez un petit peu l'ambiance et les tensions au sein du groupe. Toujours est-il que dans son coin, David Byrne et Eno travaillent durant cet hiver 79-80 sur un album concept. Alors le concept, c'est utiliser le studio comme un instrument de musique et utiliser surtout comme matière première, je vous rappelle qu'on est en 79, des samples. Alors le fameux Rapper's Delight de Sugar Hill Gang utilise le sample de Time de Chic qui est sorti seulement quelques mois auparavant, en septembre. Donc nous sommes au tout début de l'utilisation de ces échantillonneurs et donc David Byrne voulait faire un album avec que des voix et des voix surtout de prêcheurs. Il a donc passé des mois à écouter la radio, à regarder la télé et à enregistrer les discours de ces prêcheurs. Mais ce projet solo n'a pas abouti tout de suite pour des raisons de droit d'auteur. Et ce disque solo avec Eno, baptisé My Life in Bush of Ghosts, n'a été publié qu'en 1981. Entre temps, David Byrne a repris avec sa propre voix eh bien, tous ces extraits qu'il avait enregistrés, tous ces extraits de discours qu'il réutilise donc avec sa propre voix dans ce titre Once in a Lifetime, dont les paroles du refrain sont signées tout de même par Brian Eno.
Oui, c'est un fameux travail, mais bon, c'est un titre ici avec des paroles de prêcheur et un développement, vous l'avez dit, donc comme une transe, des rythmes hypnotiques, répétitifs. Alors, d'où vient ce côté presque tribal ?
C'est vrai que le morceau repose sur des boucles, des motifs qui se répètent, se décalent, se superposent. C'est une approche assez, on peut le dire, inédite pour le rock occidental de cette période. Nous sommes à peine en 1980. En fait, ils ont été chercher leur inspiration dans la musique africaine et surtout dans l'héritage de Fela Kuti, le roi de l'afrobeat. Alors comme Fela, les Talking Heads construisent ici un groove circulaire, une expérience quasi chamanique, une sorte de messe, je dirais funk post-moderne. Je propose d'écouter par exemple un extrait de cet album qu'on peut vraiment associer au travail de Fela Kuti, c'est le morceau Cross-Eyed and Painless. Lost my shit.
Quelques mesures donc à l'instant de Cross-Eyed and Painless dans cette séquence spéciale ici, donc consacrée au 45e anniversaire de l'album Remain in Light, toujours donc en compagnie de Dominique Raguet. Alors derrière le groove collectif, le groupe a connu des moments de tension, on l'a compris ici avec notamment le Brian Eno. Donc la création de ce Remain in Light n'était finalement pas ce qui était le plus évident.
Non, avec pas mal de tension, après trois albums, David Byrne prend, on peut le dire, de plus en plus d'espace, pas tyrannique, mais presque. Le chanteur, il est obsédé par les nouveaux sons, des textures électroniques, et puis il veut vraiment s'associer uniquement à Brian Eno, on l'a dit, avec ce projet solo. Et ce projet solo va créer un déséquilibre. Tina Weymouth et Chris Frantz, qui à ce moment-là ont déjà l'idée de créer un duo, qui par la suite va devenir le fameux Tom Tom Club, se sentent vraiment mis de côté. Brian Eno et David Byrne, eux, dans leur coin, ils explorent comme dans un laboratoire des nouveaux sons, je l'ai dit, avec des samples. Et pourtant, dans ce chaos créatif va naître cette véritable pièce d'anthologie que ce Remain in Light. Alors, pendant que David Byrne fait ses expériences sonores là-bas, à Kino, les trois autres membres continuaient à ce moment-là, durant l'hiver, à faire des répétitions dans leur loft new-yorkais. Et ils avaient quand même envie de repartir en studio parce que, voilà, ils se sentaient quand même en bonne mood pour faire un nouvel album avec une nouvelle formule, en tout cas chercher quelque chose de nouveau. Et en fait, ils ont quand même envie d'aller chercher David Byrne, et Tina à ce moment-là finit par mettre sa fierté de côté. Elle se dit, j'étais un peu trahi. Bon, elle téléphone à David en disant, écoute, si on faisait quelque chose ensemble, allez David, s'il te plaît. David Byrne, c'est refus catégorique.
Ah bon, mince.
À ce moment-là, Talking Heads pour lui, c'est de l'histoire ancienne. Il veut aller plus loin dans l'expérimentation sonore, dans le travail de studio. Bon, il raccroche. Clunk. Oui. Et Tina, alors, à cette idée, elle téléphone, devinez à qui, à Brian Eno, et tente de le persuader de travailler avec eux sur un autre projet. Peut-être un truc qui s'appellerait Tom Tom Club, par exemple. Ah ouais. Et du coup, le producteur accepte. David Byrne, lui, est un peu déboussolé.
C'est bien fait, quelque part, j'ai envie de dire.
Oui, c'est bien joué. Il y a quelque part pas mal de subtilité, et accepte donc de la mettre en veilleuse, comme on dit. Et voilà que quelques mois plus tard, au printemps de cette année 1980, Brian Eno et les quatre membres des Talking Heads se retrouvent aux Bahamas, dans les célèbres studios Compass Point, fondés par Chris Blackwell, patron du label Island. Un studio qui a accueilli les plus grands groupes et stars du rock et de la pop, Grace Jones, Joe Cocker, Robert Palmer, qui, par ailleurs, joue des percussions sur cet album des Talking Heads.
Okay.
Remain in Light, dont la mise en route était vraiment au départ de réaliser un disque funk futuriste et hypnotique, de par justement ces répétitions de leitmotiv, une superposition de leitmotiv pour créer un tout inspiré par des compositeurs de musique contemporaine, en tout cas pour l'époque dans ces années 70, avec en tête Steve Reich et Philip Glass.
Et je vous propose un autre extrait de cet album ici dans Soundtrack. Voici House is in Motion.
For a long time I felt without style or grace, wearing shoes with no socks. In cold weather, I knew my heart was in the right place. I knew I'd be able to do these things. As we watch him digging his own grave, it was important to know that was where he's at. Can't afford to stop, that is what he believed. He'll keep on digging for a thousand years.
I'm turning around.
Forces in Motion, donc toujours ici dans le cadre de cette spéciale qu'on vous propose ce matin ici avec Dominique, hein, donc sur les 45 ans de l'album Remain in Light des Talking Heads. Donc Dominique, ici, ce Remain in Light n'a pas été composé comme un album traditionnel. Donc je pense que cet album est entièrement réalisé donc aux Bahamas dans ce fameux studio comme Passpoint que vous venez d'expliquer juste avant qu'on
écoute. Non, pas tout à fait. En fait, l'album s'est fait en deux temps.
D'accord.
Alors, le premier temps, c'est l'enregistrement aux Bahamas, je dirais, de la matière première. Hein. Parfois, c'était juste une ligne de basse. Hein. Et cette matière brute a été ramenée par la suite à New York pour y être assemblée, triturée, pour former quelque chose de cohérent. Mm-hmm. Aucune chanson n'est née d'un simple couplet-refrain. Hein. Le studio devient un véritable instrument. Le groupe a enregistré d'abord des boucles rythmiques, souvent improvisées collectivement, puis Brian Eno et David Byrne ont un petit peu empilé les couches avec aussi bien de la guitare, du chant, des cuivres, des claviers, en procédant un petit peu comme un patchwork par collage et déconstruction, parce que c'est aussi un sentiment de déconstruction, même si le tout est assez cohérent. Et puis, ce qu'il y a, c'est que la voix de David Byrne a souvent été ajoutée en tout dernier, comme un instrument parmi d'autres. Le chant devient là aussi presque une percussion. De la manière dont la voix est placée, ça devient une rythmique à part entière. Et puis en plus, de temps en temps, comme ça, on a des sons de guitare électrique assez saturés qui déboulent sans prévenir. Et ça, elles sont signées par Adrian Belew, qui est invité sur l'album. Et Adrian Belew,
qui a joué avec David Bowie, voilà, qui est un fabuleux guitariste. C'est le gars qui peut faire n'importe quel son avec une guitare. C'est impressionnant. Vous lui demandez de faire un son d'éléphant, il vous fait un son d'éléphant.
Hop. Voilà. Voilà, donc grand guitariste. Et pourtant, cet album n'est pas un album, on peut le dire, de rock. C'est pas la guitare qui se ressent le plus. Et pourtant, si on écoute bien, parce qu'il faut vraiment écouter l'album, on sent cette petite touche de guitare. Un album qui mélange finalement le funk, le rock, la new wave et les rythmes du monde. Et il sort, je vous le disais, hein, il y a exactement 45 ans, 1980, Remain in Light. C'est un disque qui n'est pas seulement un disque des Talking Heads. C'est vraiment à ce moment-là une frontière qui a été franchie. C'est le moment où le rock blanc, je dirais, new-yorkais, s'est ouvert aux musiques du monde, où la technologie avec l'utilisation des samples a rencontré la spiritualité, où la répétition est devenue un art. Et ça va jouer notamment sur la musique électronique et sur la techno. Hein. Et son influence de cet album est immense, hein, sans Remain in Light. Moi, je dirais quand même, pas de Peter Gabriel période Saw, pas de Paul Simon Graceland, ni même, je dirais, les productions d'Arcade Fire ou même de Radiohead. Hein. Mm-hmm. Le disque a aussi préfiguré la world music, bien avant que ce terme devienne, un label de marketing. Et puis avec cet album, Brian Eno a vraiment pris le pli pour lui que le studio d'enregistrement était un instrument à part entière, et c'est comme ça qu'il va travailler par la suite. David Byrne, qui a rencontré, d'ailleurs pour la petite anecdote, Brian Eno par l'intermédiaire de John Cale du Velvet Underground, parce que David Byrne était un fan, je crois qu'il est toujours un fan du Velvet Underground, et c'est un jour il les a rencontrés à New York. On peut dire que Lou Reed et John Cale furent un peu ses mentors, et puis un jour David Byrne a demandé conseil à Lou Reed, et Lou Reed lui a dit de parfois ralentir le débit, de prendre le temps de chanter son texte. Et effectivement, sur cet album Remain in Light, ça se termine avec Overload, un morceau hypnotique atmosphérique où il parle vraiment à une vitesse très très réduite. Il paraît qu'ils se sont inspirés de Joy Division pour écrire ce morceau. Et puis juste avant, il y a le titre Listening to the Wind, qui d'ailleurs a été, quand je vous le disais, Peter Gabriel, repris par Peter Gabriel. Et je vous propose de boucler cette séquence sur les 45 ans de cet album de Remain in Light avec ce morceau Listening to the Wind. Je peux dire qu'en 2025, 40 ans après sa sortie, Remain in Light reste une référence, je dirais une symbiose entre recherche sonore et aussi en une symbiose entre humain et machine, same as it ever was, chantait David Byrne.
C'est magnifique ça. Bien, écoutez, on va faire ce que vous nous aviez dit, donc on va terminer avec ce morceau Listening Wind. Merci beaucoup Dominique, je vous souhaite un bon dimanche et on se retrouve la semaine prochaine.
Dimanche prochain.
Soundtrack.
Avec ces petits sons de guitare qui font un petit peu penser à des chants de baleines. Donc les Talking Heads ici, et ce morceau qui vient refermer donc la séquence consacrée ce matin à l'album Remain in Light.
Découvrez d'autres podcasts bien rock'n'roll sur classique21.be.